Oubliez la presse à scandale, les rumeurs de cafettes, les brèves de justice ou même les faits divers, il n'est rien de plus croustillant que le monde littéraire. Certains s'en plaignent, disant que les écrivains n'écrivent que sur eux-mêmes, c'est même un argument que j'aurais pu tenir, avant d'ouvrir ce livre étonnant qui paraît en ce moment quelque part entre l'enquête, le thriller et le roman de gare sur un sujet apparemment très formel, le prix Nobel. Un livre d'Olivier Truc qui raconte par le menu comment et pourquoi on n'a pas remis de prix de littérature l'année dernière, mais on en remettra deux demain. Un livre de secrets, ça va sauvegardé, de manigances machiavéliques, de méchants MeToo, de sacrées salasseries, qui nous prouvent qu'au royaume de Suède, il y aurait eu quelque chose de pourri, qui vaut tous les scandales d'aujourd'hui, tous les polars, tous les romans noirs, toutes les tragédies. Et je vais vous dire, à la lecture de ce livre, dont je ne vous dirai rien, parce que ça ruinerait le plaisir, je vais vous dire, il y a quoi se réjouir. D'abord parce que la littérature, qu'on dit souvent pénible et poussiéreuse, y apparaît pleine de panaches et de péripéties. Ensuite, parce qu'elle n'échappe en rien aux secousses du monde d'aujourd'hui. Et enfin, parce que demain, il y aura deux prix. Deux prix Nobel pour le prix d'un et deux bonnes raisons de parler non pas de cette affaire mais de littérature et de bons écrivains.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui, ça tombe très bien, a reçu le prix Nobel de littérature en 2010. Péruvien mais aussi europhile, fervent francophile. Il est de passage à Paris pour un grand prix Château-Latour-Carnet et aussi pour un point Mario, ça me paraît nécessaire. Bonjour Mario Vargas Llosa.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tout d'abord,
je vous en prie.
Qu'est-ce que vous en dites, vous, de remettre deux prix Nobel demain matin?
On ne sait pas, il y a tellement de cabales hein, autour du prix Nobel, mais il y a toujours des surprises. Hein. Il y a toujours des surprises.
Vous étiez au courant, vous, de cette affaire? Vous l'avez vu venir, l'affaire du prix Nobel?
Pas du tout. Je ne connais pas les détails, mais je sais qu'en général, ça a été un problème énorme pour la première fois, je crois.
Quel est votre prix Nobel préféré à vous?
Probablement le plus grand écrivain de langue espagnole qui n'a pas reçu le prix Nobel, hein, Borges. Je me souviens quand je suis allé pour recevoir le prix Nobel, j'ai rendu un hommage à Borges parce que c'était une honte de recevoir un prix Nobel qu'il n'avait pas reçu. Hein. C'était le plus grand écrivain de la langue, je crois, et probablement le seul comparable au grand classique de la langue espagnole.
Au fond, quelle vision de la littérature est-ce que vous avez l'impression de porter, Mario Vargas Llosa, vous?
C'est-à-dire que jamais il y a eu tant de livres comme aujourd'hui, et jamais on a eu tant de lecteurs comme aujourd'hui. Mais je crois que pour ceux qui lisent, la littérature représente moins que dans le passé. Je crois que dans le passé, la littérature était beaucoup plus influente, avait une présence dans la vie qui était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui.
Alors pourquoi vous écrivez? Pour faire perdurer cela?
Ah, parce qu'il faut avoir une vocation. C'est-à-dire que c'est une vocation où vous montrez à travers la littérature pas seulement comment le monde est, mais aussi votre réaction sur le monde, ce que vous sentez qui ne marche pas, ou le contraire, ce qui vous stimule, vous réjouit dans le monde tel qu'il est. C'est quand le monde passe à travers la littérature qu'on a vraiment une perspective, n'est-ce pas, objective, subjective sur le monde. Et c'est à travers la langue, n'est-ce pas, c'est la langue, ce sont les idées, n'est-ce pas. Alors je crois que la littérature enrichit énormément cette vision qu'on a de la réalité, et je crois que la littérature stimule dans le lecteur un esprit critique sur la réalité, que probablement les images qui sont aujourd'hui plus importantes que les idées, n'est-ce pas, ne stimulent pas assez, n'est-ce pas?
C'est intéressant parce que vous n'avez pas toujours écrit de romans. Dans les années 90, au Pérou, vous faisiez de la politique et vous vous êtes même porté candidat à la présidence de la République. Qu'est-ce qui, à l'origine, a pu motiver votre entrée en politique? Qu'est-ce que vous espériez changer à l'époque?
Bon, je crois que c'était très difficile en Amérique latine divorcer la littérature de la politique. Hein. C'est-à-dire, si vous écrivez en Amérique latine, c'était inévitable. Vous découvriez la politique et vous prenez parti sur des questions politiques. Et cette attitude critique qui a été toujours celle de la littérature sur la politique en Amérique latine était très, très importante parce que dans beaucoup de cas, dans beaucoup de pays, la seule expression critique de la réalité sociale et politique était à travers la littérature.
Avec la littérature, on peut changer des choses ?
Ah oui, sans doute. C'est ça que j'ai appris quand j'étais à l'université en lisant les penseurs existentialistes français, n'est-ce pas ? Sartre, Camus, Merleau-Ponty, ils nous montraient que la littérature était un instrument pour changer l'histoire. Aujourd'hui, on ne croit pas tellement que la littérature soit si importante, mais cette idée, je crois qu'elle est encore très valable, n'est-ce pas ? Que la littérature est un instrument pour changer les choses, oui.
Et dans quelle mesure l'acte d'écrire est-il toujours un acte de rébellion, l'acte de quelqu'un qui défie la réalité ?
Ah, je crois que c'est un acte de rébellion, oui. C'est-à-dire que si vous êtes tout à fait d'accord avec le monde tel qu'il est, je ne crois pas que vous écriviez, hein. Oui, je crois que la création artistique, littéraire, est une réaction critique déjà contre le monde, non, tel qu'il est.
Mais contre quoi est-ce que vous vous rebellez, vous, Mario Vargas Llosa?
Contre beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses pour se rebeller aujourd'hui, non? Contre la déformation de la démocratie par les populismes, par les nationalismes, les racismes, des choses qu'on croyait déjà dépassées et que pourtant elles sont là, hein, encore. Mais en même temps, je crois que dans beaucoup de cas, vous n'avez pas des objectifs très clairs, hein. Vous avez une inspiration qui vous pousse à vous exprimer à travers de la langue et d'une manière qui peut-être est révolutionnaire. Vous n'êtes pas conscient de cette révolution que vous êtes en train de produire à travers la création littéraire. Non?
C'est difficile d'écrire. Ou est-ce que
c'est
ça coule?
C'est dur à produire et c'est confus parce que vous avez une idée qui est très difficile de la développer et parfois vous n'êtes pas totalement conscient de ce que vous avez fait en écrivant un essai ou surtout un roman, n'est-ce pas, un poème. Vous n'êtes pas conscient de produire des choses qui peuvent opérer sur la réalité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Balzac, par exemple, c'était un grand historien, n'est-ce pas? Pas seulement un romancier, c'était un historien du siècle, n'est-ce pas? Et pourtant, il n'était pas conscient du tout de l'importance de ce qu'il faisait comme description d'un monde, d'une société, d'une époque. Il n'a jamais été tellement lucide, conscient de l'importance de ce qu'il faisait pour l'avenir, n'est-ce pas ?
Javert. Colonel. Je commandais un régiment de cavalerie à Hello, où je suis mort le 8 février 1807.
Deux officiers. Des géants. Ils m'attaquent ensemble et m'ouvrent le crâne à coups de sabre. Et je tombe de cheval. Tout est raconté dans Victoire et conquête des Français de 1792 à 1815. Vous avez bien ça dans vos livres.
La mémoire, c'est comme ça, en tout cas la mienne. Tout est éteint.
Sauf des endroits qui brillent comme des brasiers. Eux aussi peuvent s'éteindre.
Avant l'écriture, Mario Vargas Llosa, il y a la passion pour les livres. Il y a un amour immodéré chez vous pour la lecture. Comment est-ce qu'elle est née, cette passion ?
Ah, c'est vrai. Vous savez, j'ai toujours dit que la chose la plus importante qui m'est arrivée, c'est d'apprendre à lire. Je me souviens très très bien, j'habitais à l'époque la Bolivie, la Cochabamba. J'avais 5 ans et je me souviens la transformation de ma vie grâce à la lecture.
Quel effet est-ce que ça produisait?
C'est une expansion de la vie, hein. La possibilité de me transformer dans les héros des romans d'aventure que je lisais il me faisait voyager partout dans le monde, et pas seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et c'était un enrichissement de la vie extraordinaire. Et ces plaisirs-là est pour moi toujours les meilleurs, les plus importants des plaisirs. Hein.
Diriez-vous que le livre est un objet magique ?
C'est la magie, oui, mais en même temps, c'est aussi un moyen de connaissance, d'approfondir votre connaissance de la réalité humaine, de la réalité sociale, historique.
Et quels étaient les premiers livres qui ont marqué l'esprit du jeune lecteur que vous étiez dans la Bolivie et dans le Pérou des années 40 ? Vous vous souvenez ?
Je me souviens. Je crois que, par exemple, Dumas, lire la série des Mousquetaires, par exemple, ça a été tellement... Mais je crois que les grands chefs-d'œuvre que j'ai lus à l'époque, c'était Les Misérables de Victor Hugo. C'est un livre qui m'a bouleversé. C'est la richesse de cette vision si énorme de la réalité, de la société. Je crois que c'est le premier chef-d'œuvre que j'ai lu et qui a contribué sûrement beaucoup dans ma vocation littéraire. Hein.
C'est pour cette passion pour la littérature européenne, française même, on vous entend, que vous avez quitté le continent sud-américain la première fois.
À l'époque, je vous parle des années 50-60 du siècle dernier, l'influence française était énorme en Amérique latine. Hein. On lisait surtout les grands écrivains français, ils s'étaient traduits immédiatement à l'espagnol. Je me suis mis à apprendre le français parce que je lisais des livres français surtout, hein. Plus que des auteurs latino-américains à l'époque. Je lisais les écrivains français. Et on suivait toutes les polémiques. Je me souviens la polémique entre Sartre et Camus, par exemple. On a suivi un peu partout en Amérique latine, n'est-ce pas, comme une chose locale, comme une chose qui était nationale. Hein.
Alors, quand vous avez débarqué en Europe, qu'est-ce que vous imaginiez trouver ? Qu'est-ce que vous alliez chercher, Mario Vargas Llosa ?
Mon rêve, c'était de venir à Paris. C'était, à l'époque, l'idée... C'était que Paris était le centre des idées, des arts, que l'air même parisien vous imprégnait des idées, n'est-ce pas, des valeurs artistiques. C'était une idée un peu ingénue. Mais pourtant, je crois que je suis devenu un écrivain en France. C'est arrivé. C'est mon premier roman, je l'ai fini ici à Paris. J'écris mon deuxième roman ici entièrement à Paris. Alors, je suis devenu un écrivain en France, comme je le pensais. Alors, c'était pas tellement romantique, non?
Diriez-vous que vous êtes encore un écrivain français?
Oh, un écrivain français, je ne suis pas, non, j'écris en espagnol. Mais l'influence française a été énorme, je crois, dans mes livres. Quoique l'influence française est beaucoup moindre, mineure aujourd'hui en Amérique latine que quand j'étais jeune, je crois qu'encore les idées littéraires, artistiques de la France ont une répercussion grande en Amérique latine. Hein.
Vous êtes, Mario Vargas Llosa, un europhile convaincu. Vous vous êtes souvent engagé sur cette question. Vous n'avez jamais caché votre inquiétude aussi face à la montée des nationalismes, notamment en ce moment. Quel avenir est-ce que vous lui voyez à l'Europe ?
C'est-à-dire qu'il faut combattre le nationalisme. Le nationalisme est une maladie qui a produit des catastrophes comme les deux guerres mondiales, par exemple, non ? Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'après cette expérience si tragique, avec ces millions de morts qui a produit le nationalisme revient et qui soit aujourd'hui une réalité de la vie politique européenne. Hein. C'est incroyable, mais c'est en train d'arriver. Alors, je crois qu'il faut combattre, n'est-ce pas? Parce que on sait où ça conduit. Ça conduit inévitablement à la violence, à la guerre. Alors il faut combattre ça avec des idées. Mais malheureusement, à notre époque, les idées ne sont pas tellement importantes. Ce sont les images surtout qui sont importantes.
Vous parlez de l'Europe ou vous parlez aussi du Brésil et des États-Unis, là ?
Oui, le nationalisme, vous voyez comment est apparu et sur la masque d'une démagogie énorme, n'est-ce pas, d'un chauvinisme énorme aux États-Unis. Et en Amérique latine, le nationalisme était toujours un problème très sérieux. Toute notre histoire est marquée par le nationalisme qui a empêché l'intégration de l'Amérique latine et qui nous a fait créer des armées très importantes, très riches, que finalement, dans plusieurs cas, ont occupé, n'est-ce pas, politiquement nos sociétés et qui ont été un grand obstacle pour la création de véritables démocraties latino-américaines. Hein.
Mais quel avenir est-ce que vous lui voyez au monde d'aujourd'hui, Mario Vargas Llosa, vous ?
Il faut partir d'une idée qui est très importante, que c'est une idée qui défendait beaucoup un grand penseur de la liberté, qui était Karl Popper, hein, que quoique beaucoup de choses vont très très mal, on n'a jamais été mieux qu'aujourd'hui. Et c'est quoi que c'est vrai? Alors ça, c'est très important.
Hein. Mais ça ira mieux ou ça ira moins bien?
Non, ça ira... Ça dépend de nous. Hein. L'histoire n'est pas écrite. Je crois qu'une chose qu'on a appris, et surtout à cette époque, c'est que l'histoire n'est pas écrite.
Même quand on est écrivain?
C'est-à-dire qu'il y a de surprises tout le temps. Alors, l'histoire n'est pas écrite. Cela veut dire que ça dépend entièrement de nous, hein, que nous pouvons orienter l'histoire dans une direction ou dans une autre, et il faut combattre, il faut défendre, n'est-ce pas, les bonnes idées, les bonnes idées sont les idées qui sont présentes dans cette vision démocratique et libérale de la société, de la réalité, de la vie, n'est-ce pas. Je crois que ça devrait être notre guide, n'est-ce pas?
L'écrivain Mario Vargas Llosa, dans quelle mesure peut-il prévoir l'avenir, prédire l'avenir?
C'est-à-dire que c'est difficile, non? Prédire l'avenir aujourd'hui avec... Ce qui est important, c'est de croire que ça dépend de nous. Que c'est nous qui marquons, n'est-ce pas, les directions de l'avenir. Cela veut dire que tout peut changer... Mais ça dépend de notre participation, de notre collaboration avec les forces du bien. Oui, on peut gagner, c'est une bataille que je crois que au moins on pourrait se mettre d'accord pour rendre toujours aux idées les rôles principaux qu'elles avaient dans le passé. Je crois que ça, c'est une bataille qui pourrait unir des gens très 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 différents, n'est-ce pas? Ça, c'est la bonne bataille, hein? La bataille pour les idées. Pas contre les images, mais si les images détruisent complètement la présence des idées dans la vie, alors je crois que la liberté disparaîtra, n'est-ce pas?
On peut s'engager, on peut gagner, on peut rêver aussi. Alors on va écouter nos rêves avec Supertramp ce matin. Dreamer, en 1974, vous êtes sur France Inter avec le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa. Vous écoutez Boomerang. On est mercredi. Thank you.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il paraît que depuis son prix Nobel, certains l'appellent Super Mario. Et c'est vrai que si on fait abstraction du fait qu'il ne porte ni salopette, ni moustache, ni casquette ce matin, il a quelque chose d'un héros de Super Nintendo. Impeccable, le cheveu blanc, la mèche soignée, le regard profond, attentionné, facétieux, sous ses airs très sérieux. Il n'a rien contre la petite blague, à condition qu'elle soit audacieuse, très élégant. Ce matin, Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature, il y a 9 ans, invité de Boomerang à la veille de la remise d'un nouveau Nobel. Et c'est l'occasion de revenir sur plus de 50 ans d'écriture. Quel est le point de départ d'un livre de Mario Vargas Llosa? Comment ça commence?
Le point de départ pour tout ce que j'écris, c'est toujours une expérience vécue qui me donne le point de départ d'une histoire. Hein. Parfois c'est une personne, parfois c'est une situation, une anecdote. Alors je suis encouragé à développer petit à petit, à partir de cet souvenir, n'est-ce pas, d'une expérience vécue, une fiction.
Vous dites que c'est le sujet qui vous choisit, souvent. Que c'est pas vous qui choisissez le sujet qui vous choisit.
Je crois que c'est les deux choses. Hein. Il y a des expériences qui touchent, je crois, un centre névralgique de votre personnalité. Et alors vous assumez, n'est-ce pas, comme une obligation de développer cet souvenir en transformant les souvenirs dans une histoire. À partir de là, je crois que c'est le travail surtout. Hein. C'est oui. Le travail, il faut refaire, réécrire, il faut essayer d'atteindre la perfection qu'on n'atteint jamais, n'est-ce pas? Mais chercher cette perfection, c'est la leçon de Flaubert, je crois, n'est-ce pas? C'est essayer de trouver le mot juste, l'expression parfaite. Mais en même temps, c'est très mystérieux. Vous ne savez jamais ce que vous êtes en train de faire, hein, et la répercussion que ça peut avoir dans les lecteurs de l'avenir. Non?
Mais en une 50aine d'ouvrages, dont plus d'une 20aine de romans, est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris sur l'art d'écrire, d'avoir progressé?
Oh, on n'avance pas jamais. Hein. Je crois qu'on essaye, chaque fois que vous commencez un livre, c'est comme si c'était le premier. Ce que vous appris ne vaut rien. La difficulté est toujours la même. Ce qui est bien, d'autre part, si autrement vous deviendrez, la création littéraire deviendrait quelque chose de mécanique, n'est-ce pas? Non, ça serait terrible. Non, chaque fois, on commence de rien. Hein, et vous êtes en train d'apprendre à écrire chaque fois l'histoire que vous cherchez à découvrir à travers la création, non?
Et chaque fois, on transmet. C'était l'un des points centraux de votre discours de réception du prix Nobel, la transmission, il y a 9 ans. Et j'aimerais en lire un extrait, si vous le voulez bien. Par bonheur, les maîtres étaient là pour qu'on apprenne d'eux et qu'on suive leur exemple. Flaubert m'a enseigné que le talent est une discipline tenace et une longue patience. Faulkner, que la forme, écriture et structure est ce qui grandit ou appauvrit les sujets. Martorell, Cervantes, Dickens, Balzac, Tolstoï, Conrad, Thomas Mann, que le nombre et l'ambition sont aussi importants dans un roman que l'habileté stylistique et la stratégie narrative. Sartre, que les mots sont des actes et qu'un roman, une pièce de théâtre, un essai engagé dans l'actualité et le meilleur choix peuvent changer le cours de l'histoire. Camus et Orwell, qu'une littérature dépourvue de morale est inhumaine. Et Malraux, que l'héroïsme et la poésie épique avaient leur place dans l'actualité autant qu'à l'époque des Argonautes, l'Iliade et l'Odyssée. Non seulement ils m'ont révélé les secrets du métier d'écrire, mais ils m'ont fait explorer les abîmes de l'humain, admirer ses prouesses et m'horrifier de ses égarements. Ah, c'est un texte magnifique, Mario Vargas Llosa. Et il y a cette phrase, lorsque vous évoquez Camus et Orwell, vous dites qu'ils vous auraient appris qu'une littérature dépourvue de morale est inhumaine. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je crois que c'est la leçon de Camus, par exemple. Hein. Le grand débat entre Sartre et Camus, je crois que c'est Camus qui a eu raison, finalement, hein, avec cette idée que si vous divorcez entièrement la morale de la création artistique, la création littéraire, c'est la violence qui apparaît. Hein, que la morale est absolument essentielle pour empêcher la violence de gagner du terrain dans la vie. Et dans ça, je crois que Camus a été très, très, très lucide et que finalement, cette idée a prévalu sur celle de Sartre, n'est-ce pas?
Vous avez toujours été du côté de la morale, vous, Mario?
Je crois que la morale est toujours là, n'est-ce pas? Peut-être que c'est une morale différente de celle qui est acceptée, n'est-ce pas? Mais je crois que l'élément moral est fondamental dans la littérature. Hein.
C'est comme s'il y avait quelque chose de notre humanité qui se jouait dans la littérature, à vous entendre.
La littérature enrichit la vie énormément, n'est-ce pas? On vous donne une perspective de la réalité, des sentiments, des rancunes, de tout ce qui conforme, n'est-ce pas, les mystères humains. Hein. La littérature vous fait connaître mieux ce que vous êtes, ce qui est la société, ce qui est votre temps. C'est pour ça que la littérature est fondamentale pour la création des citoyens modernes, critiques, et pour permettre l'amélioration systématique de la société, n'est-ce pas?
À votre avis, Mario Vargas Llosa, et ce sera ma dernière question, qu'est-ce qui nous rend humains?
La littérature et la culture vous rendent plus humains. C'est-à-dire que la culture est un enrichissement qui n'est pas seulement des connaissances, qui ne doit pas être seulement diversion. Hein. Diversion, c'est très superficiel. Quoique les images sont merveilleuses aujourd'hui grâce à la grande révolution technique, mais ce sont les idées finalement qui sont vraiment importantes et qui durent, hein, qui opèrent sur la réalité sociale et la changent. Non? C'est ça qui est important pour la culture en général et la littérature en particulier, n'est-ce pas?
Merci infiniment, Mario Vargas Llosa, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que votre dernier roman, Au 5 rue Lima, est publié chez Gallimard dans une traduction d'Albert Bensoussan et Daniel Lefort. On attend le prochain avec impatience. Son titre en espagnol, Septiempos Recios, Les temps impitoyables. Je rappelle par ailleurs que l'on vient de vous remettre le prix Château-Latour-Carnet pour l'ensemble de votre œuvre. Alors vous savez ce qu'on dit dans ce cas-là? À la vôtre. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Merci beaucoup.
Solitaire, Jimmy s'affaire à s'affirmer pas à pas, même si tout ça est harassant parfois. Jimmy a le regard troublé, Jimmy le sait. C'est désormais sur celle-ci que s'orientent ses yeux conquis. Jimmy enchaîne les blagues, Jimmy divague, pensant déjà à la belle bague qui ornerait le doigt de sa future femme. Jimmy tape le terrain, Jimmy sent bien. C'est terriblement grisant de s'attacher ainsi. La nuit, Jimmy gémit quand on lui dit que. Mais arrêtez de dire que. Jimmy aime qui Jimmy veut. La nuit, Jimmy gémit quand on lui dit que. Mais arrêtez de dire que. Jimmy aime qui Jimmy veut. S'approche, trop près de celle pour qui Jimmy s'accroche. Jimmy charme, Jimmy gagne la confiance de sa belle qui se laisse couler sous les draps jusqu'au souper. En s'oubliant, se laisser vivre. Jimmy a réussi son coup dans la rue à son bras sa dulcinée. Et Jimmy congé déjà beaucoup ses plans sur la comète un jour des enfants à son cou. Jimmy voit très bien que les yeux étrangers regardent les siens. C'est sa première fois, sa première femme. C'est vrai, c'est pas la première fois qu'on les observe passer. La nuit, Jimmy. Quand on lui dit que. Mais arrêtez de dire que. Jimmy aime qui elle veut. La nuit, Jimmy gémit quand on lui dit que. Mais arrêtez.
Ah, Loïs Sauvage, Jimmy sur France Inter, c'est l'heure de Sonia De Villers désormais, les médias, l'instant M.